Merci en Capico Arrondi, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 17h15, heure de Kinshasa.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Nomination mercredi dernier d'Augustin Matata-Mponyo au poste de Premier ministre. Au cours de son tout premier point de presse, il a annoncé les priorités de son futur gouvernement qui sont entre autres la matérialisation de la révolution de la modernité qui doit avoir des impacts positifs sur le social du pays et la sécurité à l'est de la RDC. Quelle analyse faire des priorités énoncées par le Premier ministre? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 23 avril 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Célestin Tundaya Kassende, secrétaire exécutif du PPRD chargé du processus électoral. Maître Tunda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et cadre du RCD. Maître Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, chercheur au centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Dr Jean-Claude Kiko Olongue depuis le Tchad. Nous voulons connaître le contenu de la révolution de la modernité. C'est quoi? Ça coûtera combien? Quels sont ses axes d'intervention? Je suis convaincu que le Premier ministre est technocrate, qui nous donne un plan de travail clair et qui nous dise ce qu'il attend de la population. Benjamin Moulagi de Mexico au Mexique, la priorité c'est s'attaquer à la misère tout simplement, pas par des discours mais par des actions concrètes. La solution à la misère des Congolais n'est pas à chercher ailleurs que dans les fiefs de ceux qui gouvernent le pays. Cette misère est entretenue avec la corruption qui gangrène toute la classe politique en RDC. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nommé mercredi dernier au poste de Premier ministre, Augustin Matata-Mponyo a annoncé les priorités de son futur gouvernement. C'était au cours d'un point de presse tenu un jour après sa nomination au ministère des Finances ici à Kinshasa. Le nouveau chef du gouvernement promet en effet de se battre pour matérialiser la révolution de la modernité qui doit avoir des impacts positifs sur le social du pays. Les actions de son gouvernement, a dit le nouveau Premier ministre, vont se focaliser sur la sécurité à l'est de la RDC. Quant à la formation du gouvernement, elle devra se baser sur la compétence et la rigueur dans la gestion des affaires publiques. L'essentiel de ce point de presse avec vous, Alain Rung.
Dans ce point de presse tenu au lendemain de sa nomination, le Premier ministre a déclaré que les actions de son gouvernement seront notamment basées sur des valeurs cardinales, à savoir la consolidation de la paix sociale, la sécurité de l'État, l'amélioration du social du peuple congolais, l'amélioration de la gouvernance économique. Pour Augustin Matata-Mponyo, le choix du président a été basé sur ces valeurs cardinales pour la fondation de la République, a-t-il expliqué. Il a aussi ajouté que la formation du gouvernement devra se baser sur la compétence et la rigueur dans la gestion des affaires publiques de l'État. Paraphrasant le chef de l'État, Joseph Kabila, le nouveau Premier ministre promet que la RDC devra entrer dans le concert des économies émergentes qui, selon lui, est le fruit du sacrifice, de la rigueur et de la recherche permanente des résultats. Nous voulons donc vous rassurer de notre disponibilité permanente à pouvoir concentrer l'ensemble des efforts pour l'accomplissement de cette mission qui vient de nous être confiée par la haute hiérarchie du pays, a conclu l'ancien ministre des Finances.
Merci Alain Rung pour ces détails. Maître Tundaya Kassende, vous êtes secrétaire exécutif du PPRD, chargé du processus électoral. Quelle analyse vous faites des priorités du futur gouvernement de Matata-Mponyo?
Moi, je crois que j'ai une lecture très positive par rapport à l'annonce du Premier ministre Matata. Je crois que il a donné une orientation, bien sûr ambitieuse, mais qui est tout simplement adaptée aux circonstances actuelles de notre pays. Et là, je crois qu'il a raison de donner les axes qu'il a lui-même énumérés, parce qu'il s'agit des axes prioritaires. Alors, si j'ai dit qu'il a fait lui-même des prévisions ambitieuses, courageuses, adaptées aux circonstances, et ce sont des prévisions tout à fait objectives, je pars d'abord du fait de l'homme lui-même. Je pars d'abord du fait de l'homme lui-même. Personne ne me contredira sur la compétence de la personne qui a été choisie par le président de la République pour animer le futur gouvernement. Personne ne me contredira sur les capacités d'un homme de travail, lorsqu'on doit parler de Matata. Personne ne me contredira sur son amour de transformer la République démocratique du Congo. Donc, si je pars déjà sur cette base purement subjective en parlant de l'homme, je crois qu'il a bien indiqué. Et ensuite, il faudrait que je me réfère à l'action de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que responsable des finances publiques, en tant que ministre des Finances dans la République? Je crois que le temps qu'il est passé, son bilan, n'est-ce pas, qu'il peut évoquer, je crois que c'est un bilan qui dit beaucoup. C'est un bilan positif. D'abord, on peut retenir qu'il a maintenu la stabilité du taux d'échange, le taux d'échange depuis un certain temps, n'est-ce pas, dans notre pays, est stable, et ça fait la fierté, n'est-ce pas, de la gestion de nos finances publiques. Nous pouvons également dire que sur le plan macroéconomique, parce que là, je rentre un peu dans la maîtrise des facteurs macroéconomiques, parce que lui-même, le Premier ministre, je crois qu'il a beaucoup de capacités dans ce domaine. Je crois qu'il a su maîtriser les grands paramètres macroéconomiques, notamment l'inflation. Nous sommes sortis dans la période où on était à une inflation à trois chiffres. Et depuis longtemps, nous avons, je crois, jugulé cette hyperinflation. Et le ministre de Finances, dans son secteur, avant qu'il ne soit nommé Premier ministre, il a réussi ce pari-là, le pouvoir d'achat. La même chose, sur le plan des réserves d'échange qui puissent favoriser les importations. Là également, nous avons un boni positif. Donc, nous pouvons dire que lorsqu'il dit que son ambition est de faire passer le pays à un autre stade, la République démocratique du Congo, vous connaissez, je crois, c'est juste un rappel, la typologie des pays lorsqu'ils sont classifiés, les pays émergents d'abord, tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, les pays en émergence, comme l'Afrique du Sud, la Turquie, les pays en voie de développement, mais en transition, sont des pays tels que la Tunisie, le Maroc, les pays les moins avancés tout simplement, tels que les pays comme l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria, ainsi de suite, et les pays les moins avancés, mais retardés. C'est Merci. Dans la classification où se trouvait encore Merci. Le Congo. Mais nous avons des atouts, et par rapport, les atouts potentiels, et par rapport à l'action de
l'actuel Premier ministre,
il veut faire avancer le pays.
Alors on retient que les orientations sont ambitieuses et courageuses, comme vous l'avez dit, mais on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Guémena.
Travaux Jean-Bernard Mibeko, Bandaka, province de l'Équateur. Ce sont de bonnes intentions, mais nous attendons voir le nouveau Premier ministre à l'œuvre. Nous voulons aussi savoir ce que l'on attend par révolution de la modernité, que cela ne puisse pas s'inscrire dans les lots des slogans que nous avons l'habitude d'entendre depuis que ce pays a accédé à sa souveraineté internationale.
Alors c'est plutôt Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka à l'Équateur. Alors Maître Tunda, qu'est-ce qu'on entend par révolution de la modernité? Depuis un certain temps, on entend beaucoup ces slogans du côté de la majorité.
Non, il ne faut pas justement qu'on se retarde au niveau des slogans. Avant même que je ne donne une explication quelconque, parce que là, il ne faut pas non plus nous enfermer dans les carcans des définitions.
Oui, puisque les gens veulent comprendre.
Je crois que depuis un temps, vous avez vu vous-même des réalisations qui sont en train d'être faites, n'est-ce pas, dans différents domaines, dans différents secteurs. Donc, il y a des réalisations palpables au niveau des infrastructures, au niveau De la santé, quand je parle de la santé, il faut pas voir seulement les soins dans les hôpitaux, les médicaments, il faut voir aussi, n'est-ce pas, les constructions qui accompagnent ces soins dans les domaines de la santé. C'est la même chose du niveau de l'enseignement. Donc, la modernité, la révolution de la modernité, en quelques mots, on peut se résumer en disant, c'est la transformation profonde de l'édifice de la République démocratique du Congo dans les différents domaines, que ce soit les infrastructures, le transport. Donc, c'est cette vision, cette politique et cette matérialisation, n'est-ce pas, de toutes les actions, n'est-ce pas, qui tendent à transformer, n'est-ce pas, le pays physiquement, parce que sur le plan structurel, je crois qu'il y a des actions également avec les différentes réformes, avec les différents programmes, n'est-ce pas, du gouvernement, soit seul, soit en partenariat avec
transformation profonde. Donc, dans la législature passée, c'était une transformation superficielle.
Non, le programme est toujours évolué. On évolue, madame.
Merci.
Chaque programme vient s'ajouter par rapport à un autre.
Merci.
Lorsqu'on annonce un programme,
Maître Touna,
vous n'allez pas dire
Je veux vous redonner la parole.
Il aura la parole.
Il y a un chrono. On doit lui donner la parole. Merci. Maître Touna,
donc,
pour la compréhension.
Nous évoluons.
Maître Moïse Niakougabo, comment vous analysez les priorités du futur gouvernement Matata?
Madame, je vais d'abord dire que j'ai pitié de mon ami et confrère Tunda qui a la lourde charge d'expliquer ce concept vide. J'ai vraiment pitié de lui. Et vous voyez comment il a de la peine. Ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est bien. Et les mots pour le dire viennent aisément. Mais aujourd'hui, demandez aux amis de la majorité de nous expliquer ce que signifie la révolution de la modernité. D'abord, je vais m'arrêter sur le plan sémantique. C'est non-sens. La modernité, c'est déjà le caractère de ce qui est moderne. C'est à ça qu'on aspire. Alors, quand on dit la révolution de la modernité, ça veut dire qu'on doit d'abord atteindre la modernité et révolutionner la modernité, bouleverser, aller au-delà de la modernité, bouleverser. Parce que la révolution, c'est un changement spectaculaire, c'est une transformation, comme il dit. Alors, dire qu'eux, ils veulent révolutionner la modernité, c'est aller au-delà de la modernité, transformer même la modernité. Encore que même les pays, pas les pays émergents, même les pays développés, ils sont encore dans la modernité. Maintenant, eux, notre majorité ici, nous dit qu'elle veut aller au-delà de la modernité. Je pense qu'ils se sont trompés. Sur le plan sémantique, ils auraient pu dire, ils voulaient dire peut-être, la modernité, la révolution par la modernité. Ou la révolution...
Ça n'a rien à voir avec...
Je vous dis...
Maître Sonda, laissez Maître Moïse Niakougabo parler. Vous allez réagir après. Allez-y, Maître Moïse Niakougabo.
C'est diabolique de rester dans l'erreur. On peut corriger.
Alors, par rapport aux priorités énoncées par le Premier ministre...
Par rapport au contenu, il se limite toujours au niveau des infrastructures. Quelles sont les infrastructures qui vous montre que vous avez fait de la modernité? La modernité, c'est quoi? Messieurs, nous n'avons pas d'internet dans ce pays. Il n'y a pas de fibre optique. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de train. On n'a même pas le train Kambelembele qu'on avait encore dans le temps du Maniema vers Lubumbashi. Et la modernité, c'est quoi? On n'a même pas de bus. Vous allez aspirer au TGV avant d'avoir des bus de transport en commun avant d'avoir des taxis. Alors, on va avoir des taxis sans route. Donc, je crois qu'il faut être modeste. Je pense que ça n'aide pas à prendre de gros mots, des slogans, dont on maîtrise mal le contour, qui n'ont pas de contenu. Pour que ce soit une vision, pour que ce soit une politique, il faut que ce soit défini, qu'on sache la révolution de la modernité, voici le contenu. Il y a 1, 2, 3, 4. Ces 1, 2, 3, 4 vont nous coûter ceci. Nous allons les réaliser dans autant de temps. C'est ça le plan, c'est ça la vision. Mais si c'est juste pour annoncer des slogans, comme on a annoncé les 5 chantiers, qui était difficilement définissable, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas quel était le contenu, encore qu'on les a déjà abandonnés.
Mais lorsque le Premier ministre...
J'en viens. Les cinq chantiers, on les a abandonnés sans les avoir achevés. Est-ce qu'on les a terminés? Est-ce qu'on les a abandonnés? Sur le social, on n'a rien fait, on le sait. C'était un chantier. Maintenant, on a quitté les cinq chantiers, on est allé à sept axes. Sept axes, c'est quoi? Soyez humble. Prenez des choses simples. Encore que même les cinq chantiers n'avaient rien de vision, ce n'était que l'énumération de cinq secteurs prioritaire. Vous pouviez simplement dire les cinq secteurs prioritaires. C'était encore beaucoup plus compréhensible que de parler de cinq chantiers. Et où sont les chantiers? Donc je pense, madame, que par rapport aux autres éléments qu'il a donnés qui sont...
Est-ce que ce ne sont pas des orientations ambitieuses, courageuses, comme l'a dit Maître Tunda?
J'ai bien peur qu'eux-mêmes ne les comprennent pas exactement, qu'il n'y ait pas un contenu défini. S'ils ont le contenu, qu'ils nous aident à comprendre. Mais je vais dire à mon confrère Tunda qu'il n'y a pas que moi qui ne comprends pas, par exemple, la révolution de la modernité. L'opinion ne comprend pas. Il faut expliquer, dites-nous, c'est quoi le contenu? Quels sont les contours? Donc, il faut prendre des choses faciles, des choses simples, les expliquer, surtout les choses que vous serez en mesure de faire. Mais prendre des gros mots, des slogans sans contenu et que vous n'allez pas réaliser, ça ne nous aide pas.
Alors, on va prendre pour vous, Maître Moïse, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
La Rola Barbine à Kinshasa. Le discours du nouveau Premier ministre, c'est un discours purement politique. Pour autant que le mot congolais tant décrié persiste encore jusqu'à présent, la corruption, les détournements des deniers publics, un enrichissement sans cause et j'en passe. J'ajouterai aussi la projection du budget actuel sur les cinq prochaines années. Cette projection, à mon avis, ne présage pas autant d'espoir qu'on ne le croit.
Maître Moïse, réaction par rapport à cet auditeur?
Je peux dire sans commentaire, je suis d'accord avec lui. C'est étonnant lorsque les amis disent qu'on va entrer dans le concert des économies émergentes, lorsque nous sommes encore dans les PPTE. On va y aller comment? Nous n'avons même pas encore de budget. Vous savez, madame, nous sommes au mois d'avril, nous n'avons pas de budget. Et avec ce genre de gestion, nous allons entrer dans les économies émergentes? Non, je pense que... C'est vraiment un discours, je ne veux même pas dire un discours politique, c'est des slogans, et jusqu'à ce qu'on nous convainque que ça a un contenu.
Merci Maître Moïse Nyarugabo. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez ces priorités du Premier ministre Matata Mponyo? Vous avez suivi les analyses des uns et des autres, comment vous analysez ces priorités?
Merci beaucoup. J'ai suivi le Premier ministre avec beaucoup d'attention. Je dois dire que le Premier ministre est plein d'ambition. Et je crois qu'il a été l'un des moins mauvais ministres pendant l'exercice passé. C'est quelqu'un qui a avec lui un bilan qui me semble satisfaisant. Et partant de là, il a l'intention de mettre un peu haut sa vision et son ambition pour l'exercice qui vient. Et je crois que les fonctions qui lui sont confiées le mettent évidemment au diapason de cette mission-là. Et donc du coup, il annonce là quelque chose d'assez fort, quelque chose qu'il pourra réaliser, mais peut-être maintenant il faut dire, est-ce qu'il en a le moyen? Est-ce que il en aura les moyens et politiques, et militaires, et financiers? Je voudrais ici dire qu'il y a un concept qui tend à revenir dans les discours, c'est le concept de la modernisation. Ce concept est généralement abusivement utilisé, alors que à l'université, il y a une théorie de la modernisation qui existe. Cette théorie explique le sous-développement de pays du tiers-monde par leur culture. Une culture qui est qualifiée d'arriérée, de traditionnelle, et cette théorie tendait à dire qu'il faut passer d'une culture arriérée vers une culture améliorée, vers une culture qui peut incarner les pratiques du développement. Et donc, c'est donc ce passage-là que l'on appelle modernité. Quand on passe d'une situation qui est arriérée vers une situation améliorée, ils ont appelé ça la modernisation. Alors, ce sont donc des paradigmes développementalistes qui ont existé et qui ont été remis en cause. Ce concept de modernisation, curieusement, il réapparaît dans les discours politiques congolais. Mais il me semble bien que le contenu qu'on lui donne, évidemment, je n'ai pas encore entendu un contenu assez clair de ce concept. Je suis moi-même en train d'écouter le concept, mais sans pouvoir purger quel est le contenu exact qu'on lui donne. Parce qu'en fait, ce concept n'a plus sa connotation culturelle que lui donner les théories de modernisation, mais il me semble bien que l'on est parti, si j'observe bien les discours des uns et des autres, on est parti d'une observation qu'en fait, il y a des chantiers routes à Kinshasa qui sont évidemment une certitude, parce que quand vous circulez à Kinshasa, vous devez vous rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui a été fait en termes de route. Et donc, ce chantier route ayant été lancé et étant devenu une certitude, on se dit qu'on est là dans une modernisation. Et du coup, on voudrait dire qu'il s'agit là d'une modernisation qui devient un programme de gouvernement. Sans dire de quoi cette modernisation sera faite. Est-ce que la modernisation veut dire améliorer les routes? Quand il est vrai que la modernisation, si elle peut être appliquée à l'État, elle ferait allusion à la réforme de l'État, et qui parle de réforme de l'État, ouvre là des vastes chantiers qui toucheraient à beaucoup de secteurs. Et donc, c'est le contenu à donner au concept de modernisation qui me semble aujourd'hui être un problème. Et je regrette que le Premier ministre ait tombé dans cette tentation de piquer ce concept et de l'inclure comme faisant partie de son programme. Il aura certainement difficile à donner un contenu acceptable à ce concept qui me semble devenir un fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout quand il vient ajouter la révolution de la modernité, franchement, là, sur le plan conceptuel, il nous égare.
Voilà, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de l'Italie, professeur Félicien Kabamba.
Samba de l'Italie, Florence. Comme priorité des priorités, c'est un beau salaire aux fonctionnaires. C'est de cela que découle la suppression de la corruption, de l'insécurité, des points transmissibles, des détournements, etc. Le salaire convenable permet automatiquement de contribuer à la modernisation du pays. En outre, pourquoi les anciens gouvernements ne se sont pas intéressés au recensement de la population? Car selon notre humble avis, c'est quand on maîtrise le nombre de la population que l'on peut aussi maîtriser ses besoins, mais également sa capacité à exploiter. Nous souhaitons donc que le nouveau gouvernement y réfléchisse.
Réflexion.
Il a totalement raison. C'est-à-dire, je crois qu'il faudrait que le Premier ministre évacue le concept de modernisation de son programme et qu'il nous donne des axes précis de son programme. Parce que le concept de modernisation veut dire beaucoup de choses à la fois et je ne suis pas très certain que...
Il a parlé de la consolidation de la paix sociale, la sécurité de l'État, l'amélioration du social du peuple congolais, l'amélioration de la gouvernance économique.
Oui. Évidemment, ce que vous dites là, c'est vous entrez encore dans des nouveaux concepts qui parlent de paix sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? La paix sociale, ça veut dire quoi? C'est voilà un autre concept qui est très très gros. Parce que là, l'intervenant de tout à l'heure venait de vous parler des salaires. Vous voyez, c'est un des éléments de la paix sociale. Mais on peut énumérer d'autres éléments de la paix sociale. C'est pourquoi j'ai dit qu'il serait bien que le Premier ministre donne son programme, un programme complet, un programme lisible, qui peut nous permettre d'apprécier les axes principaux de son programme. Mais qui parle de paix sociale, c'est un gros concept dans lequel on peut mettre beaucoup d'ingrédients. Et je considère que jusque-là, le Premier ministre nous a un tout petit peu laissé dans sa soif, et donc nous attendons les axes précis de son programme.
Et donc vous estimez que le programme n'est pas complet?
Il n'y a pas encore programme jusque-là. Il n'y a pas programme. Il a donné des intentions. Il a fixé apparemment des axes principaux sur lesquels et il a utilisé des concepts qui sont beaucoup plus grand et qui inclut beaucoup d'ingrédients, ce qui fait que jusque-là, nous avons difficile à comprendre de quoi ou autour de quoi va s'articuler le programme gouvernemental.
Merci, professeur. Maître Tondor, vous avez la parole. Vous vouliez réagir au propos de Maître Moïse Nyarugabo.
Oui, Maître Moïse, qui est un ami, je l'aime très bien, tout simplement parce que lui, je crois qu'il a choisi l'opposition comme son état culturel. Il ne veut pas évoluer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je crois qu'il y a parfois des évidences où il faut être positif. Et lorsque vous êtes en face, n'est-ce pas, de certaines choses, vous vous dites, oui, ici, je pense que c'est dans le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie, et que ça, on peut reconnaître. Mais lui, malheureusement, ça ne lui arrive pas. Parce que quand nous restons à ces niveaux-là, où on considère qu'il faut tout décrier, il faut tout refuser, mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire un État. Et là, je ferai même un pont avec ce que le professeur disait tout à l'heure. Vous savez, j'ai suivi hier, après les résultats en France, c'est François Hollande qui disait les résumés, et ça a été, disons, répercuté plusieurs fois dans les radios, dans les émissions, il disait, maintenant, le changement est en marche, et que plus rien ne saura le retarder. Donc, son mot-clé à lui, dans ses intentions, dans sa vision, c'est le changement. Et il y a 5 ans, 4 ans à peu près, nous avons entendu la même chose aux États-Unis. Lorsque le président actuel, Barack Obama, a été élu, depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, c'était « Yes, we can change ». Alors, ici, si c'est au Congo, on va lui dire « Mais il envoie des slogans, il va changer quoi ?»« We can change what ?»« What do we can change ?» Hein? Mais il y a des actions, il y a un dossier, il y a un programme.
Mais Maître Tounda,
c'est ça.
Mais comment la révolution de la modernité pourrait impacter sur le social du Congolais?
Mais la modernité, quand il dit, c'est ça que j'ai dit au début. Vous avez coupé la parole à Maître Nyarugabo lorsqu'il disait que les éléments que j'ai annoncés tout à l'heure étaient tout à fait corrects. Ça veut dire que le Premier ministre, en tant que ministre des Finances, avait maîtrisé les grands paramètres. Sur le plan macroéconomique. Nous sommes alignés dans un pays qui a déjà une croissance pendant plusieurs années, ici en Afrique. Mais maintenant, lui maintenant qui passe des finances et revient responsable au niveau de la primature comme Premier ministre, il veut capitaliser d'abord ses atouts de facteurs macroéconomiques, maintenant pour les orienter sur le plan social. Notamment parce que la croissance, par exemple, en économie, on dit que la croissance toute seule, ne peut pas développer un pays, ne peut pas apporter le bien-être.
Mais Maître Tounda, ma question est claire.
Oui.
C'est quoi le lien entre la révolution de la modernité et le social?
Pourquoi ce lien?
C'est quoi le lien, je demande? Modernité, la révolution, le lien, social, la modernité,
c'est cette...
Les pensionnaires, tout le temps en grève, les médecins en grève.
C'est cette transformation. Il ne faut pas prendre... Vous prenez des petites actions épidermiques. Mais les médecins en grève, allez en Allemagne, allez en Belgique. Jusque hier, je crois, il y avait encore les routiers qui ont bloqué tous les passages en Belgique. En France, en Allemagne, c'est la même chose. Ne prenez pas des petites, des petites conséquences épidermiques comme dire non. Cette modernité, cette transformation, cette vision dans les grands secteurs, c'est ça qui aura des répercussions. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir de payer des salaires aux fonctionnaires si on n'a pas produit? Mais il faut qu'on instaure une action dynamique, n'est-ce pas, pour matérialiser la production,
merci,
pour qu'il y ait des revenus,
merci,
pour qu'on puisse payer les salaires.
Merci.
Donc c'est un lien qui est tout à fait une passerelle qui est normale, qui merci. Est tout à fait objective. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que le professeur dit le ministre c'était un très bon ministre des Finances, le bilan satisfaisant, mais il dit il ne comprend pas comment. On peut réaliser ce programme de modernité. Non, il ne faut pas qu'on se limite à des mots.
Merci, on a compris.
Et c'est ça le conseil que je vais donner à Maître Nyarugabo ici.
Merci, Maître.
Les mots, lui, il a été gestionnaire.
Maître Tounda, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de passer la parole à Maître Moïse Nyarugabo. Voilà. Vous avez largement. Vous êtes en avance par rapport aux autres invités. Maître Moïse Nyarugabo.
Il gère le pays comme il gère le temps.
Non, c'est moi qui gère le temps. C'est moi qui gère le temps, Maître Moïse Nyarugabo.
Est-ce que. c'est même dans la gestion des petites choses. Il n'a pas bien compris. Le professeur n'a pas dit que le premier ministre était un très bon ministre. Moi, si j'ai compris, il a dit qu'il était le moins mauvais. C'est différent. Je vais dire ceci, madame.
Non, je vais vous poser une question sur le social. Est-ce que ce ne sont pas de bonnes intentions que le premier ministre a lorsqu'il dit qu'il va se battre pour la sécurité à l'Est, pour le social des Congolais? Est-ce que ce ne sont pas de bonnes intentions?
Non, je vais vous dire, ce sont des intentions excellentes. Si c'est ça, c'est que vous voulez entendre. Les intentions excellentes. Mais mon problème n'est pas là, madame. Mon problème, c'est que justement, quand Maître Tunda dit qu'il ne faut pas qu'on se limite aux mots, malheureusement, c'est par les mots qu'on communique. Surtout qu'on ne communique pas suffisamment par les gestes. On ne voit pas ces gestes. Donc, c'est par les mots qu'on communique.
Les actions sont là.
Alors, je veux dire ceci.
Laissez-le parler, s'il vous plaît, Maître Tunda.
Je pense qu'il est... Je ne sais pas pourquoi il est agité aujourd'hui, mais je voulais simplement dire ceci. Nos amis de la majorité ont décrété une année du social, vous le savez. Il ne s'est jamais rien passé, rien. Et quand j'ai dit slogan, on dit non, je ne vois pas ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif, Maître Tunda? Les 10 km de route, bravo. Faites encore 10 km, je vais applaudir. Quand c'est positif, j'apprécie. Mais je ne veux pas y revenir aujourd'hui pour donner aussi ce qui est caché derrière ces 10 km de route. Mais je veux dire que cherchez des mots faciles, cherchez une vision claire. Dites-nous ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Mais quand vous utilisez des concepts que vous-même vous ne comprenez pas, je peux vous jurer que la révolution de la modernité est une erreur sémantique et vous pouvez la corriger, personne ne vous condamnera. Trouvez un groupe d'intellectuels, réunissez-les, qu'ils fassent 2 mois en train de préparer un programme, un bon programme, avec pour sécuriser l'Est, qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut procéder pour améliorer la situation, le social de la population? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les actes? Quels sont les axes? Faites un programme chiffré, un bon projet, clair. Nous allons vous soutenir. D'ailleurs, la vision pour la nation, ce n'est pas une affaire de la majorité. Vous pouvez même consulter la société civile. Vous pouvez même consulter l'opposition. C'est une vision de la nation que même notre gouvernement pourrait adopter s'il venait à vous remplacer. Il pourrait s'inscrire dans la même vision. C'est en cela qu'on peut parler d'une vision de la nation. Vous comprenez? Donc vous pouvez consulter les autres. Mais quand vous êtes là à lancer des slogans que vous n'allez pas réaliser sans contenu, nous n'allons pas vous suivre. C'est pas possible.
Alors, Maître Tunda, s'il vous plaît, le nouveau Premier ministre de la RDC a pris officiellement possession de la primature ce week-end. Matata Mponyo, Premier ministre de la RDC, a entamé des consultations pour former dans un bref délai son gouvernement. Des précisions avec Askin Zigbia.
Les partis politiques de la majorité présidentielle sont les premiers à être consultés depuis vendredi. Olivier Kametatu de l'ARC, Évariste Boshab du PPRD, Bahati Lukebo de l'AFDC et bien d'autres ont été tour à tour reçus par Matata Mponyo. Ces personnalités sont parmi des responsables de partis de la NP dont le poids politique est remarquable au regard du nombre important des députés que ce regroupement compte à l'Assemblée nationale. Ensuite, le Palou, parti allié de la ANP, a été également consulté le samedi à travers son porte-parole, Godefroy Mayobo. À la primature, cette consultation s'est faite sans distinction. Même les partis peu représentés au Parlement y sont conviés. Le Premier ministre tient à former donc un gouvernement sincère dans un bref délai. Matata Mponyo.
La formation du gouvernement procède aussi de cette volonté de rallier tout le monde à l'action du gouvernement sincère. Mais ce qui est vrai, c'est que le plus tôt serait le mieux.
À sa première sortie face à la presse depuis jeudi, Matata Mponyo laisse entendre qu'il devra former son équipe gouvernementale sur base de la méritocratie et de la compétence. Selon certaines sources proches de l'ancien ministre de Finances, Matata Mponyo prévoit d'éteindre le choix de ses futurs ministres au-delà même de formation politique.
Moïse Nyarugabo, je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition et cadre du RCD. Un mot sur les consultations du Premier ministre avec les partis de la majorité, mais il promet aussi d'étendre ces consultations au-delà des formations politiques.
Madame, je pense que au sujet des consultations, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas en être autrement, il ne va pas former le gouvernement sans consulter les partis de la majorité. je l'encourage à le faire, à bien le faire, mais surtout à le faire vite. À ce niveau, je n'ai pas un avis à donner parce que, en tout cas, je crois que la majorité n'a pas besoin de mes avis, des avis de l'opposition pour former le gouvernement parce qu'ils n'arrêtent de nous dire que c'est eux qui ont gagné les élections, c'est à eux de gouverner. Alors, nous sommes des gouvernés, nous attendons qu'ils forment le gouvernement et nous allons les juger sur les actes. Mais quoi qu'il en soit, c'est bon de consulter, c'est bon de... pour ne pas nous produire encore un ministre fantôme. Je vais vraiment inciter qu'il fasse de bonnes consultations et que les propositions qu'on va lui faire, qu'il ait le temps de recevoir les candidats ministres, de voir s'ils sont valables et valides. Parce que nous avons connu un cas d'un ministre fantôme parce qu'on n'a pas eu le temps suffisant de consulter et de recevoir les gens. Mais il faut aussi veiller sur le temps. Parce que ça fait quand même plus de 4 mois. Nous sommes au 5e mois depuis que le président de la République a prêté serment. Madame, dans tous les autres pays du monde, il a cité Obama, il a cité d'autres. À 100 jours, on fait le premier bilan. À 100 jours de la prise de fonction. Notre président de la République est entré en fonction depuis le 20 décembre. Nous sommes aujourd'hui au-delà du 20 avril. Ça fait plus de 4 mois, je crois. Nous sommes au 5e mois. Et il n'y a rien. Donc, qui tienne compte du temps.
Merci, Maître Moïse, professeur Félicien. Le Premier ministre insiste sur la compétence et la méritocratie pour les prochains membres qui vont former son gouvernement.
Non, mais je crois que c'est un critère substantiel. Nous avions connu des gouvernements dans lesquels il y avait des ministres qui ne remplissaient pas un certain nombre de critères. Et je crois que la valeur du gouvernement est aussi fonction de la valeur des ministres qui le composent. Il est essentiel que le Premier ministre ait la main libre pour avoir les personnes qu'il veut. Et je ne connais pas très bien quels sont les mécanismes et les modalités des désignations de ministres. Là, c'est peut-être une cuisine interne à la majorité. Mais moi, je crois que le Premier ministre devra avoir la main libre pour avoir des personnes qui ont les qualifications, qui ont des qualités morales, qui sont honnêtes, et des personnes qui peuvent comprendre qu'il est temps de bâtir ce pays et donc d'abandonner les antivaleurs. Si le Premier ministre peut avoir les mains libres, il pourra certainement former un gouvernement avec des personnes qui méritent d'être là, d'être ministre.
Alors, Maître Moïse a évoqué le facteur temps aussi. Ça fait 5 mois depuis que le président de la République a prêté serment. On n'a pas toujours des gouvernements. Ça joue aussi le facteur temps pour la formation du gouvernement.
Exactement. D'ailleurs, le temps est beaucoup plus devenu un facteur plus important quand on regarde qu'aujourd'hui, notre pays est géré d'une manière tout à fait aléatoire. Le pays fonctionne sans budget, il a dit. Il n'y a plus aujourd'hui dans le monde, je ne connais pas un seul pays qui fonctionne sans budget. Je crois que nous devons être l'unique pays au monde qui fonctionne sans budget. C'est une situation à laquelle... C'est une situation
s'il vous plaît,
à laquelle...
Maître Moïse.
Vous n'avez pas donné la parole.
S'il vous plaît, c'est le professeur qui est en train de parler.
C'est une situation à laquelle nous nous sommes accommodés. Les justifications peuvent être apportées à gauche, à droite, mais je vous assure, c'est la plus grande caractéristique des républiques bananières. Une république qui fonctionne sans une loi financière, c'est-à-dire sans une loi qui fixe les recettes et les dépenses au cours d'une année. Et alors aujourd'hui, on peut se demander en fonction de quoi tout cela fonctionne. C'est véritablement de l'arbitraire. Est-ce que nous allons continuer dans l'arbitraire? C'est ainsi que le temps, pour le moment, ne joue pas en notre faveur. Il faut absolument faire vite pour que les choses, que l'État fonctionne normalement. Il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Alors, il y a une certaine opinion qui parle d'interférence politique pour les choix des prochains ministres, prochains membres qui vont conformer le gouvernement ou de gouvernement parallèle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres d'interférences lorsque le Premier ministre doit se choisir les gens avec qui il doit travailler?
Bon, il faut dire que l'un des grands atouts du Premier ministre, c'est que il n'est pas un politicien, un politicien d'origine, c'est plutôt un technocrate, mais cela est aussi un désavantage, dans ce sens qu'il n'est pas très habitué aux combines politiques, et du coup, il peut très vite lâcher prise, partir du moment où il se sent coincé politiquement. Alors, est-ce qu'il va avoir véritablement les mains libres? Là, c'est la question que je me pose. Je ne connais pas très bien comment les choses se passent au niveau de la majorité. Parce que on peut lui proposer des candidats qui, à première vue, ne répondent pas à certains critères. Est-ce qu'il a, il a le choix de le refuser? Ça, je ne sais pas. Mais concernant le gouvernement parallèle, ça, c'est une réalité. J'ai toujours rigolé chaque fois que cette question me posait. Le gouvernement parallèle, vous n'allez pas l'éviter. Le gouvernement parallèle est une évidence. Il existe et il existera. Il est très difficile dans ce pays, et même dans beaucoup de pays africains, que le pays fonctionne sans gouvernement parallèle. De temps en temps, on vous dit qu'il n'existe pas, mais je vous assure, il en existe toujours.
Merci, professeur. On va lire rapidement quelques réactions des auditeurs. Ernest Mpararo de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption à Kinshasa dit ceci. Nous pensons que la priorité du Premier ministre serait la lutte contre la corruption pour augmenter les recettes afin de financer le social. Nous allons juger le Premier ministre sur les actes et non sur les discours. En premier lieu, nous allons voir s'il va diligenter les audits pour savoir comment est-ce que le budget 2011 avait été exécuté, s'il va diligenter les audits pour justifier les écarts contenus dans les rapports ITIE 2008 et 2009. Raoul Vumbi de Bukavu, Sud Kivu, que le Premier ministre ne nomme pas les chefs des partis politiques dans son gouvernement, sinon il va échouer. Un auditeur anonyme dit ceci, nous saluons de prime abord la nomination de ce technocrate dont la discipline et la rigueur dans le travail ne sont plus à démontrer à ce jour. Nous estimons à notre avis que si le Premier ministre veut réussir son mandat et marquer les esprits comme il a fait lors de son passage au ministère des Finances, il n'a qu'à s'investir en tant que chef du gouvernement dans l'opérationnalisation du DSRP2, qui est l'unique cadre de référence des politiques de développement, car ce document contient tous les ingrédients à même de sortir la RDC de l'extrême pauvreté qui la caractérise. Maître Célestin Tunda, le Premier ministre, lors de ses consultations, a dit qu'il allait former un gouvernement sincère dans un bref délai. Quand il parle de gouvernement sincère, est-ce par rapport au précédent gouvernement?
Non, je crois que c'est. Il veut tout simplement dire que il a même expliqué en se disant qu'il va se baser sur la compétence des candidats et le principe de la méritocratie. C'est ça la sincérité. Donc il va le faire en toute transparence et donc c'est pour dire que il ne cherche pas à compliquer les choses ou à se camoufler ou aller, je ne sais pas, faire des cadeaux à ceux qui ne méritent pas d'entrer au gouvernement.
Alors donc, il nous reste 3 minutes dire. Pour finir l'émission, je vais vous demander aussi de conclure.
La conclusion pour moi, c'est, madame, je voudrais dire que parfois on ne perçoit pas très bien les choses. Quand on parle du social, on dit voilà, est-ce qu'il saura faire le social et est-ce qu'il aura les moyens. Le social, ce n'est pas lié à sa politique. Mais pour faire le social, madame, il faut réussir d'abord sur le plan économique à maîtriser certains paramètres. Vous allez faire le social sans maîtriser l'inflation. Merci. Vous allez faire le social
vous
sans,
l'avez déjà
sans,
dit.
Oui, je l'ai dit, sans croissance.
Et il a réussi
dans ce domaine. Donc le social pour lui, ça devient très facile.
Merci,
parce que
maître.
Déjà il a les atouts.
Merci.
Sur et puis
merci,
autre
maître,
chose
rapidement, on a voulu
dire qu'il n'y a pas de budget. Là j'ai compris, il faut qu'on se réfère au principe des finances publiques. Aujourd'hui,
merci.
Le gouvernement fonctionne avec les crédits provisoires.
Merci, Maître Tounda. Maître Moïse, votre conclusion en un mot.
Madame, je suis étonné. Le gouvernement fonctionne avec les crédits provisoires lui accordés par qui? Parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Il n'y a jamais eu un vote d'un crédit provisoire. Donc, c'est de l'arbitraire. Madame, je vais donner un conseil au Premier ministre de bien faire son travail, de négocier, d'essayer d'avoir les mains libres. Et s'il n'en a pas, qu'il démissionne. Sinon, il va porter la responsabilité d'avoir mal géré alors qu'il n'a pas exercé le pouvoir.
Merci, Maître Moïse Nyarugabo, professeur Félicien Kazamba.
Le Premier ministre doit certainement donner un nouvel élan. L'ancien gouvernement s'est réunissait épisodiquement, trimestriellement, semestriellement, je ne sais pas. Le nouveau, je crois qu'il faut qu'il initie de nouvelles bonnes habitudes.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guimaté Alain Rung, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Mimi Kindou qui est à la technique au micro. Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net et diffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.